Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
Bienvenue au Vallon des Auffes. Nous sommes assis sur l'un des bancs du square du lieutenant Danjôme. Sur notre gauche et en contrebas se trouve le Vallon des Auffes. Sur notre droite, un monument. Et en face de nous, la mer avec les îles de Malmousque, du Château d'If et du Frioul. Chers auditeurs, ne trouvez-vous pas étrange le fait d'être face à la mer ? La mer, par son immensité et son horizon, ne nous connecte-t-elle pas avec le monde, la nature et l'univers, l'espace et le temps, puis avec nous-mêmes ? Au temps des Mésopotamiens, il y a 3500 ans, les hommes voyaient la mer comme le début du bout du monde. On ne devait s'y aventurer que pour la pêche et la baignade non loin du bord. Le reste était parfaitement inconnu et hostile, et inspirer toutes sortes de légendes mythologiques. L'univers chez les Mésopotamiens est représenté par un œuf à l'intérieur duquel se situe la terre plate des hommes, avec en son centre Babylone. Ses limites horizontales sont les mers tout autour. Sa limite verticale est le ciel en haut et les tréfonds terrestres en bas. Au bout de la mer, du ciel et de la terre, se trouvent les parois de l'œuf cosmique, dont le contour jusqu'au royaume des hommes est le domaine des dieux. De l'Antiquité à nos jours, les choses ont bien changé. Par soif de connaissance, ou tout simplement par soif, l'homme a repoussé les limites que lui imposait la nature en défiant l'inconnu toujours plus loin. C'est ainsi que Galilée et Copernic avaient calculé non sans mal que la Terre était ronde. Entre-temps, les dieux de l'Antiquité, ayant pressenti que l'homme se rendrait compte tôt ou tard de la supercherie cosmogonique, avait pris les devants en décidant non seulement de ne plus se représenter en images, mais de fusionner en un dieu unique et spirituel, créateur des hommes et de l'univers, où les lieux du paradis, du purgatoire et des enfers allaient être tenus totalement secrets. De l'époque mésopotamienne à la nôtre, ce fut donc une véritable révolution cosmogonique. On passa d'une terre plate dans un univers rond et clos, à une terre ronde à la surface plate, dans un univers sans forme, parce qu'infini. Mais l'homme d'aujourd'hui, comment se représente-t-il dans sa nouvelle cosmogonie ? En d'autres termes, comment se situe-t-il dans l'univers devenu infini ? Eh bien, l'homme vit toujours sur la Terre. La Terre est devenue ronde et l'homme vit à sa surface. La Terre a grossi au point de prendre tout l'espace qu'occupait l'univers selon les Mésopotamiens, à la manière d'un œuf. Puis, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas la seule, qu'il y avait d'autres planètes en forme d'œuf autour d'elle. Tous ces œufs font partie du système solaire, avec au centre le Soleil en guise de poule céleste. Notre système solaire, composé du Soleil et de ses planètes, en gros, le panier de la poule avec ses œufs, tient sa place dans une galaxie parmi d'autres paniers ou systèmes solaires, un peu comme dans un poulailler, aux côtés d'autres poulaillers ou galaxies, constituant l'univers en perpétuelle expansion, un peu comme dans un élevage industriel de poules pondeuses dont le dieu créateur serait le patron d'une multinationale dans la volaille ayant créé un monopole. Merde alors. Ce fut un choc pour l'homme que de réaliser que son existence se résumât à une infime particule d'un œuf de poule parmi des centaines de milliards d'autres particules constituant cet œuf. Car il prit conscience de son infinitésimale participation à l'univers. En touchant à l'infiniment grand, il prit conscience de l'infiniment petit. Et le vallon des Auves dans tout ça, que vient-il faire ? Eh bien, le vallon des Auves se trouve sur la terre ferme. Face à la mer et sous le ciel, les mêmes à partir desquels les Mésopotamiens se construisaient leur rapport à l'univers. Le vallon des Auves est un microcosme à travers lequel toutes les questions humaines se concentrent et trouvent leur raison d'être dans un trou. Ce trou représente une sorte de faille spatio-temporelle dont nous allons tenter de dévoiler le secret. Démarrons dès à présent notre visite. Je vous invite à sortir maintenant du square et à rejoindre la chaussée. De l'autre côté de la rue se trouve le portique de l'entrée du vallon des Auves. Je vous y attends. Puisque le temps de traverser la rue dépend du trafic, je vous propose alors de mettre sur pause notre programme le temps d'y arriver. Dès que vous m'aurez rejoint à l'entrée du passage du vallon des Auves, vous remettrez sur play le podcast et nous continuerons notre promenade. Bienvenue. Nous nous trouvons donc sous le portique du vallon des Auves, dominant un escalier. Donnez-moi l'oreille et descendons les marches en suivant la rampe à votre gauche, s'arrêtant sur un petit palier. Les habitants que nous allons rencontrer sont de différentes générations. Et ils ont tous quelque chose à nous raconter, ayant un lien avec la mer, leurs racines et leur raison de vivre. C'est ce que nous allons découvrir. Arrêtons-nous un instant sur ce palier. Sur notre gauche, l'escalier remonte vers des maisons. Et en face de nous se trouve une entrée qui porte le numéro 138. Juste en face de ce numéro se trouve, sur notre droite, une porte. Approchons-nous. Nous pouvons lire le nom de...
Bernard Grondonin. G-R-O-N-D-O-N-A. C'est du côté de Gênes. Du côté de Sainte-Marguerite et la mer. C'était des pêcheurs. Famille des pêcheurs, oui. Mais il y a des générations qu'on est en France.
Bernard, vieil homme de la mer, du fond de ses yeux bleus turquoises, a plein de choses à nous raconter. Avant de poursuivre l'enregistrement, je vous invite d'ores et déjà à descendre l'escalier jusqu'en bas de manière à écouter son histoire en regardant les bateaux. Je vous suggère, une fois en bas, de rester sur la rive droite du port, entre l'escalier et le bas du pont. À de suite.
J'ai commencé à 15 ans. J'en ai 84.
J'ai
arrêté 74. Ça fait presque 70 ans de pêche. Ben, c'est ma vie. C'est ma vie. Et puis, d'ailleurs, de tout petit, j'étais habitué à aller à bord des bateaux. Et je vous dis, pour le certificat d'études, à l'âge de 15 ans, je me suis embarqué sur le rôle, et depuis, je suis professionnel, quoi. Passionnément. Ben, c'est la passion, c'est qu'on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises à la pêche. Il y a des jours comme sort, comme pêche rien. Puis il y a des jours comme fait des pêches formidables. Tout dépend des courants, de la lune. Il y a un tas de choses. À...
Oui. Je me rappelle que vous disiez toujours il y a la lune ce soir, hein, c'est vrai.
Pleine lune, c'est pas bon pour la pêche. Ça, elle a une influence. Ouais. Oh ben, la pêche diminue, quoi. Le poisson, il doit pas bouger. Pour moi, ça fait partie de ma famille, la mer. Une femme, je crois. Une mauvaise femme, des fois. Ah oui. Des fois, c'est une bonne femme. Il faut la respecter. Parce qu'elle, elle ne le respecte pas. Hein. Quand le temps il arrive, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même pas les prières. Hein. Ouais, ouais, on n'est jamais plus fort qu'elle.
Et parfois, elle est généreuse, la mère. Elle vous donne du poisson.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il faut lui donner en retour à la mère?
Des remerciements.
Et comment est-ce qu'on remercie la mère?
C'est tout intérieur. Et lorsqu'on a fait une bonne pêche, c'est intérieur. On ne se met pas à parler à la mère.
Ça se joue avec un regard?
Oui, plutôt.
Avec un sourire?
Oui.
Avec une larme?
Ah, ça dépend, oui.
Une émotion?
Les émotions, il y en a beaucoup eu, mais je suis toujours passé à travers. C'est ma vie. Et c'est une belle vie, attention.
Nous sommes toujours sur la rive droite du port. À droite se trouve le pont du Vallon des Offres, avec ses trois arches. Sur le mur de la première se trouve une plaque commémorative honorant trois pêcheurs décédés en mer en 1961. Au pied de cette plaque, il y a un petit banc, appelé « banc des feignants ». C'est là que les vieux du quartier se retrouvent. Allons voir Antoine et ses amis.
43 ans. Je suis né à Marseille, au quartier de Saint-Jean qui a été démoli par les Allemands. Mon père est venu en 33 ici. Parce qu'entre Naples et Rome, là-bas en bas, donc, c'était pas bon pour la pêche. Mon grand-père, c'était un pêcheur. Et dans le pays là-bas où il était, il crevait de faim. Il est parti travailler dans une mine de soufre en Amérique. 10 ans. Il est revenu avec de l'argent. Il avait 3 garçons. Il a acheté un bateau à chaque garçon et un bateau pour lui et le matériel pour travailler à tous les 4. Ils ont fait faillite tous les 4. Tous, ils ont crevé de faim. Alors, mon père est venu ici à expatrier en France. Un, il est resté en Italie au village. Mais il faisait le pêcheur paysan parce que là-bas il faisait double métier. Après, en 45, il a sauté sur une mine, il est mort. Et mon troisième oncle, il est parti en Amérique, il est à Niagara Fox, sur les chutes du Niagara. Il a un motel là-bas. Et voilà, mon père s'est installé à Marseille. À Marseille, il a fait le pêcheur, on a réussi, on a eu des bateaux. Et moi, je suis allé à l'école et j'ai voulu faire le pêcheur. Pourtant, j'ai eu toute ma vie le mal de mer. Toute ma vie. Et pourtant, j'ai souffert. J'ai vomi à la mer, de part. J'ai fait la mer. Voilà. J'ai fait le chalutier, après le lampereau, et puis j'ai acheté un bateau ici. En 1969, je suis venu pêcheur au Vallon des Offres. C'est beau quand on dit maintenant il vient l'essor, que vous tirez 2 km de filet, vous avez pris 100 sols, 150, c'est beau. On est bien. On ne se bat pas contre la mer, mais on est avec elle, on fait corps avec la mer. La mer, ben, elle veut qu'on s'en aille, ben, il faut s'en aller parce qu'on ne peut pas combattre. Méditerranée, elle se lève, Mouetin se lève dans 10 minutes. Hein. En 10 minutes, on sortait en bateau, on était en train de monter, mettons, allez. Disons pas loin, hein, une demi-heure de marche. On tirait les filets. Le temps de tirer les filets, de recaler, on mettait 1h30 et tirer, caler. Il y avait force 7, 8. Il fallait rentrer. on rentrait. Et c'était moins temps. Mais comme il a fait le 13 juillet 61, non, il n'a jamais fait. Et pour surprendre tous les bateaux en pleine mer, comme il a fait, non. D'ailleurs, tous les bateaux sont rentrés. Lui, il n'est pas rentré, toujours, par la mauvaise tête.
Il aurait pu rentrer.
Il aurait pu rentrer.
Il y a un cargo qui a déjà aux abris.
Ouais, mais puis s'il mollait les filets à la mer, tu rigoles, toi, si. S'il voit que c'est moins temps, au lieu de partir en poupe, tu molles les filets, tu rentres en travers, hein, tu rentrais, hein, ma foi. On parle, mais est-ce que c'est savoir ce qui s'est passé?
Ouais,
on ne le saura jamais. Hein.
Ouais. C'est ce qui est marqué là-haut, là.
Ouais,
sur
ouais,
la plaque, ici.
C'est un demi-frère à Bernard, Louis Tassara. Ils sont frères de mer. Il a mis beaucoup de filets à bord. Si la mer le monte par derrière, le bateau ne se relève plus. Devant, oui, devant, on tape la mer. Le bateau, la mer elle embarque et le bateau il se relève. Mais si la mer le vient par derrière, le bateau ne se relève pas. Il était plein de filets, la mer l'a embarqué, il ne s'est plus relevé. Hein.
Ah ouais.
La mer, elle fait attention. Il hein. faut jamais dire oh, je suis plus fort que la mer. C'est pas vrai. Voilà.
Ça va, Maurice?
D'ailleurs, les Génois, les je ne sais pas si c'est le père ou le grand-père de Bernard, ils sont venus de Gênes à la voile, à Rame, tout ça. Ils se sont arrêtés au Vallon des Orfres. C'était l'endroit le plus poissonneux. C'était l'endroit où ils savaient qu'ils allaient vivre, pouvoir manger. En question pêche, ils étaient bons.
Réparation navale.
Ils faisaient les palangotes avec les crènes de chevaux.
Notre vie.
Hein?
C'était notre vie.
Ah, c'était dur à l'époque.
Beaucoup plus dur.
Avant, non, avant, si. Il fallait savoir, c'est il fallait le connaître. Bernard, lui, il est bon pour ça. Hein. Toutes les pointes des montagnes, c'est le nom.
Ouais, c'est
il n'y avait que des repères. Hein. Il calait les langoustes pour les repères. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de sondeur.
Si vous le voulez bien. Allons en face, sur l'autre rive. Nous dépasserons la pizzeria chez Jeannot en contournant le port. Là-bas, un certain nombre d'impasses permettant l'accès au cabanon sont perpendiculaires à cette rive, et elles portent toutes un nom de poisson. Arrêtons-nous à la hauteur de l'impasse de la Girelle. Il y a là-bas un petit muret sur lequel vous pourrez vous asseoir.
La playa de Catalan, comme la Catalogne libre.
Mais lui là, non?
Un pays libre, n'importe quoi.
Ça, tu pourrais payer deux fois les impôts, lui. Une fois en Espagne, une fois en France.
Ah, t'es méchant.
Bon, ça le fait rire.
Vous ne voulez pas vous asseoir? Je vous prends la place.
Je veux grandir, c'est la prochaine.
Ici, alors, c'est le banc des feignants, c'est ça qu'on m'avait expliqué
hein? Ouais.
Il y en a qui ont honte de dire feignants, ils disent c'est le banc des vieux.
Nous, on dit que c'est le banc des feignants.
Alors, nous, pour rigoler, on dit là. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours entendu dire banc des feignants.
Moi, j'ai toujours entendu dire le banc des feignants.
Parce que les vieux, ils venaient là, ils racontaient. Mais avant, ils racontaient des conneries, moi, sur les vieux.
Ça n'a pas changé, non?
Non, mais maintenant, mais avant.
Ils sont un peu moins vieux, ceux qui les racontent, mais ils vont devenir vieux. Ils sont en train de...
Il y en a eu, une fois, il a raconté, voilà, il est parti de Port-de-Bouc, il calait le palang. Il est allé à Planier, il a fait le tour, il est revenu. Et d'un coup, il s'est mis à tirer un poisson. D'un coup, il passe un bateau. On dit, oui, il dit, qu'est-ce que vous faites? Je tire. Mais dis, attention, vous allez au fond. Hein. Le bateau, il était tellement chargé de poissons qu'il allait au fond. Mais c'est pas vrai, c'est la même matière d'histoire.
Bah oui.
Il a dit, oh, le bateau, il s'en va au fond.
Et celui qui a dit...
Et toujours, il prenait des gros pajots, il mettait à bord. C'est
et,
pas...
et celui qui a dit qu'il avait coupé, le homard, il avait coupé le rail.
Ah ouais, il est mieux pêcheur.
Homard, il était dans le mangrove, il a coupé le rail du tram.
Le homard, il a une grosse pêche.
Oui.
Alors, il était à l'Estac, il pêchait, et voilà qu'il prend un gros homard. Il le met dans les paniers, et il marche. Et d'un coup, le homard, il tombe. Il tombe sur le rail du tram, il prend, paf, il a coupé le rail. Il arrive au tram, j'ai pris un homard, il avait la page, il a coupé le rail du tram.
C'est une histoire de Marseillais, ça?
Ouais.
Et pourquoi il est espagnol?
C'était des blagues.
Et ouais, c'était des blagues, hein. Il a des conneries, les vieux, oh putain.
Mieux dire des conneries que mal de son boisson.
Il paraît.
Quoi?
Depuis moi 20 ans, 30 ans. Mon bateau, même qu'il a 70 ans, qu'il est toujours en activité, donnez-moi mon vieux bateau. Il faut voir si je ne prends pas du poisson.
C'est sûr que le poisson, il y en a encore.
Il faut savoir, oui. Et encore à 30 ans, on ne sait pas ce qu'on sait à 70 ans.
Exactement.
Mais même, je m'en fous, je veux perdre mon savoir, finalement, à 30 ans.
Il n'y en a pas des jeunes qui sont attirés pour la pêche, Antoine.
Pour faire plaisir à mes fiancés.
Il n'y en a pas des jeunes qui sont attirés.
Ah, c'est pour faire plaisir à la fiancée, Antoine.
À mes fiancés.
Pour devenir matelot ou un tabateau.
Il y en a beaucoup ?
J'en ai eu quelques-unes.
De quoi ?
Des fiancés.
Comment je parle suisse, monsieur?
C'est le Casanova del quartier.
Non, que je vois quand tu le connais.
Maintenant, il est plein de maîtresses, il est vieux, il n'y a que des vieux radars.
Montre la photo de la vieille que tu m'as montrée.
Antonou, comme il savait qu'il y a de monnaie, il ne faut pas le dire, ça. Pour peut-être avoir le présenteur. Moi, il peut venir, mais toi, non. Quand il vient, il t'arrange.
Il m'a déjà arrangé, j'en suis à 10 000 euros par mois, par an.
Moi, il peut venir, je m'en fous. Moi,
pour l'école, là, maintenant. Sûr, Hollande.
Sûr qu'il peut bricoler.
Hollande.
Ce con, la voiture socialiste, là.
C'est quoi, la voiture? Moi, je l'ai dit toujours, le vote socialiste.
Tu remarques qu'il n'y a pas d'impôts ici, bien sûr.
Pour commission politique, je vote socialiste.
Il faut partager un peu.
Il faut partager.
Pas beaucoup, mais.
Pas en Amérique, a dit Obama et l'autre. Tu vas voir comment on te tue sur place.
Nous sommes maintenant assis sur le petit muret de la rive opposée de celle du banc des Feignants, à la hauteur de l'impasse de la Girelle. Avec Bernard, Antoine et ses amis, nous avons effleuré la mémoire de ces vieux pêcheurs. J'ai récemment rencontré Boris, un homme de la mer d'origine russe, plus jeune, à qui j'ai fait écouter l'enregistrement de Bernard. Il réagit en ces termes.
C'est tout intérieur. Lorsqu'on a fait une bonne pêche, c'est intérieur, hein, je n'ai pas à parler à la mer.
Moi je parle au poisson. Mais je chante.
Ça se joue avec un regard ?
Oui, plutôt.
Avec un sourire ?
Oui.
Avec une larme ?
Ah, ça dépend, oui.
Une émotion ?
Les émotions, il y en a beaucoup eu, mais je suis toujours passé à travers.
Il y a tellement de pêcheurs qui ont apporté de main justement l'émotion. Par exemple, là, il y a un monsieur qui s'appelle Gabriel Raffini, Gabi, qui m'a tout appris. Et bien lui, il débarque, il vient me voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup. Quand je fais je ramande un filet, je refais des mailles au bas du filet, je double la maille, peu importe, un travail méticuleux. Il me dit, t'es fou de faire ça comme ça, machin truc. Et en même temps, il dit, c'est magnifique. Moi, je lui ai pas dit, vas-y, passe des heures avec moi, prends le filet, vas-y. Mais il sait le faire, il pourrait m'aider à pendre le filet comme il faut, pour fermer les mailles, pour travailler, pour montrer la bonne manière de travailler, pour transmettre des choses, pour communiquer. C'est au-dessus de ses forces, il peut pas le faire. Il le sait parfaitement. Et il y a un truc chez les pêcheurs, c'est ils te regardent faire, ils valident ce que tu fais. Ça leur fait remonter les souvenirs, ils te disent des trucs. Bon, des fois, il y aura d'autres parce qu'ils deviennent vieux. Mais de là à se dire que ce qu'ils savent, c'est ça leur richesse, et que ça, il faut le transmettre pour faire avancer les gens, eh bien, il faut le voler, savoir. Tu regardes, tu observes en permanence, tu travailles avec un pêcheur, il ne te donnera pas les choses, tu les voles. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. À leur insu, une manière poétique de dire, de ma part. Tu vois les choses se faire, et si tu en as la capacité à faire une lecture de ce qui se passe, tu sauras le reproduire. C'est-à-dire, la complexité, c'est la succession décidée de gestes très simples.
Un jour, un homme du bord de mer m'a dit « La mer, par sa masse vivante, se donne en spectacle permanent. Si tu la délaisses, la néglige, elle t'énerve. Ce qu'elle te donne, il faut le lui rendre. »
Je relâche du poisson vivant beaucoup. Aujourd'hui, j'ai relâché par exemple une raie que j'aurais pu manger. Une pastenague qui était magnifique. Je rejette tous les jours des poissons. Mais le rejet pour moi, c'est le rejet de poissons vivants. Je ne suis pas en train de pêcher des rascasses. Je suis en train de pêcher des loups et des dorades. Il y a deux rascasses qui sont là. Je les rejette. Je vais pêcher des corbes, un poisson sur lequel il y a un moratoire. on a le droit de le pêcher et de le vendre. Ils font 300 grammes, je les rejette. Je vais pêcher une grosse cigale de mer. Elles sont rares, et il y a un moratoire, elles sont protégées. Je téléphone au parc marin qui les pèse. Je leur demande si je le rejette dans le même endroit où je l'ai pêché ou dans la réserve. Et en fonction, je le rejette. Je fais ça tous les jours. Tous les jours. Mais du poisson vivant. Des pêcheurs disent... quand justement je veux pêcher des poissons plus gros, etc. Des pêcheurs d'expérience et des gens que je respecte me disent il faut prendre de la mer ce qu'elle te donne. Il ne faut pas chercher plus loin. Le jour où il est, il faut aller le prendre. Tu fais une bonne pêche. Tu retournes le lendemain. Ou bien tu décides de ne pas y retourner, mais tu n'es pas du tout sûr dans les cinq jours qui suivent de retrouver... du poisson, le même poisson au même endroit. Tu dis, j'ai calé mon filet pareil, les conditions sont réunies, le courant c'est le même, ou presque, etc. etc. Voilà. Tu prends rien. Ça force l'humilité. Enfin bref, il y a des choses qui sont surprenantes. Tu attends des choses. Tout au plus, tu peux viser, estimer, penser, se souvenir des gestes qu'on a fait. La veille, mais déjà ce qu'on a fait l'année précédente à la même heure, ou à la même saison, puisqu'il y a des saisons. Et essayer. Enfin, moi, c'est comme ça que je pêche, je cherche. On me disait, la mer, tu prends ce qu'elle te donne. Est-ce que ça, c'est un arrangement? Les Arabes, en tout cas du Moyen-Orient, ne disent jamais, il y a du poisson aujourd'hui. Sidna Samak, Lyon. Ils disent, Firisq. C'est Rizq Allah. Parce que le Dieu te donne. Et ils te disent du coup, Firisq ou Alama Firisq. Firisq et Lyon, ça veut dire, est-ce qu'il y a du poisson aujourd'hui? Il y a du risque aujourd'hui ou il n'y en a pas? Ben ça fait risque, non? Risque. Sauf que bon, c'est le don. C'est le... Et ce côté aléatoire, de manière pas seulement poétique, philosophique, me convient. C'est-à-dire, tu ne gagnes pas tous les jours. Tu ne gagnes pas tous les jours. Et de fait, j'ai envie, je ne m'enrichis pas. Mais. Parce que la vie, c'est pas... Je sais pas, il y a une expression que j'ai jamais compris, à gagnant-gagnant. Non, la vie, c'est pas gagnant-gagnant. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne, ou je sais pas quoi. Il y a pas d'arrangement. On s'arrange pas avec la vie. Il y a des jours avec, et il y a des jours sans. Mais la vie est toujours là, on est vivant. Ça, c'est important. Se sentir vivant, quoi. C'est penser et être vivant. Voilà ce que la mer propose. C'est comme ça que je crois qu'on rend à la mer ce qu'elle te donne.
Maintenant, je vous propose que nous nous levions et dirigeons-nous vers la Grande Arche en direction de la digue. Boris, Antoine et Bernard sont des pêcheurs français, issus d'une immigration de deuxième génération. Ils nous ont raconté en quoi la mer, à travers leur métier de pêcheur, constituait un ancrage à la vie, ainsi qu'un moyen de vivre. Ils nous ont aussi raconté en quoi elle représentait la mémoire de leurs aïeux, auxquels ils ne cessent d'ailleurs de rendre hommage, et qui, étant étrangers, avaient dû braver la mer et la misère pour se poser ici ou là, afin de construire leur vie et assurer celle de leurs enfants. Mais si pour Boris, Antoine, Bernard et bien d'autres, la mer représente une source de vie, qu'en est-il pour les migrants d'aujourd'hui? Que représente-t-elle pour eux? Tant qu'ils n'ont pas encore créé leur ancrage. Allons à la rencontre d'Amin Merabet, pêcheur-plongeur depuis son plus jeune âge, qui, à 17 ans, décida de quitter son Algérie natale, alors en pleine guerre civile, dans l'espoir de se construire loin de ses racines.
Je suis venu par avion avec Air Algérie sur un vol normal, pas dans la cale, avec un visa d'un mois que j'ai allègrement... dépassé. Puis la veille de l'expiration de mon visa, ma mère m'a appelé. Elle m'a demandé comment ça allait. J'ai dit que ça allait bien. Et puis, sans un mot, vraiment sans un mot, c'est un coup de fil dont je me souviens très bien, sans un mot, on ne s'est rien dit. Elle m'a dit, ok, alors je t'appelle demain. Sachant que le lendemain, j'avais un avion à prendre. Mais sans rien se dire, on savait que cet avion, je ne le prendrais pas, donc je ne l'ai pas pris. Je pense que ma mère savait un petit peu ce qui m'attendait, pas moi. Moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Donc, je me suis installé quelques temps chez une tante, après quelques temps chez une cousine, après quelques temps chez un autre cousin. Et puis, j'ai très, très vite compris qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Et c'est un charmant monsieur qui m'a montré la première fois de ma vie que j'étais clandestin. C'était un contrôleur de la SNCF. J'avais même pas oublié, je ne savais pas qu'il fallait composter un billet. Et en me faisant contrôler, je donne mon billet le plus normalement du monde. Et ce monsieur-là voit qu'il n'est pas composté. Donc il me dit, monsieur, je vais vous mettre une amende. Et il me demande mes papiers. Et ben, quand il a vu que mon passeport était un passeport algérien, il est parti directement sur mon visa et il a vu que mon visa était dépassé. Ça m'a coûté 500 francs en liquide, sans amende. Comme quoi. Donc je me suis fait racketter gentiment par un contrôleur de la SNCF qui m'a pris 500 francs en me disant que c'était une amende et qu'il était très gentil. Donc j'ai dit qu'il était très gentil. Dans un énième effort consenti par ma mère, encore une fois, qui a été mon meilleur allié là-dessus, j'ai pu trouver une école privée parce que le public ne m'acceptait pas pour passer mon bac. Donc je suis arrivé à Aix, dans une école internationale. Donc c'était très bien parce que ça allait un petit peu en droite ligne de ce à quoi j'aspirais. Et cette école-là, ils ont toléré ma clandestinité parce qu'ils ont voulu me donner ma chance. À côté de ça, c'était une école privée, donc 60 000 francs pour un élève, je pense que ça ne se refuse pas non plus. Il y en a un qui est tombé sur mon visa, ça ne le regardait pas. Et puis, il me l'a bien fait comprendre. C'est important. Donc ce genre de choses, à ces moments-là, je t'assure, ça vaut de l'or. Et ma mère a fini de payer cette école, en tout cas payer les créanciers qui l'ont aidé à payer cette école, à peu près en 2000. J'avais intérêt à décrocher mon bac. Et le jour où j'ai appris que j'avais obtenu mon bac, c'était la plus grande nouvelle de ma vie. Et c'était la pire nouvelle de ma vie, parce que ça voulait dire aussi que je n'étais plus interne. J'ai eu un appart absolument magnifique qui s'appelait le Parc Jourdan à Aix. Et donc j'avais pour lit un joli banc sur lequel j'ai dormi quelque temps. J'avais Camus, j'avais L'Étranger. Mais ça n'avait rien à voir, c'était vraiment une cocasserie du sort, j'allais dire. Mais non, j'avais L'Étranger parce que c'était mon premier livre. C'est le premier livre que ma mère m'avait fait lire quand j'étais petit. Donc c'est un livre auquel je tiens énormément. Et j'avais l'Iliade et l'Odyssée, qui sont mes livres de chevet que j'ai relus à peu près 47 000 fois, sans exagérer. Donc j'avais ces trois livres-là, j'avais deux paires de chaussettes exactement, j'avais deux t-shirts. Je ne faisais absolument rien de mes journées, je gérais. Bizarrement, je ne me suis jamais rapproché de la gare par peur d'être happé par la rue, mais vraiment. Un tournant de ma vie. J'étais sur le cours Mirabeau, à Aix-en-Provence, et je me suis retrouvé en face d'un vendeur de chiche kebab. Il y avait une poubelle sur laquelle se trouvait une barquette de frites. Et cette barquette de frites avait à peine été entamée, mais vraiment même pas touchée, il n'y avait ni sauce ni rien du tout, c'était une barquette de frites plutôt propre, j'allais dire. Ça faisait trois jours à peu près que je n'avais pas mangé. Je ne faisais que boire de l'eau. Je peux te jurer que j'ai dû passer une vingtaine de minutes à regarder cette barquette de frites. Non pas que je salivais, mais je me disais, est-ce que je la prends ou pas? Et ben je l'ai pas prise. Ça m'a permis de rester debout. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis encore aujourd'hui, à presque 40 ans, je suis heureux de ne pas avoir pris cette barquette de frites. Elle symbolisait l'abandon. J'ai pas fait ça pour ça. J'ai pas fait ça pour ça. Et j'étais... Et à ces moments-là, en fait, ce qui te permet de rester digne à tes propres yeux, c'est ce qui finalement est le plus important, c'est d'être porteur, d'être ambassadeur de quelque chose. Et ce qu'avait fait ma mère, ce qu'avaient fait les gens qui avaient été à côté de moi... J'aurais pris ça, peut-être bêtement, j'en sais rien encore aujourd'hui, mais j'aurais pris ça pour une injure à ce qu'ils avaient fait. Non, je n'ai pas mis la main dans une poubelle et je n'ai pas pris cette barquette de frites. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai eu faim. L'Algérie est un pays, le tiers-monde est un pays qui te permet, si tu as l'esprit assez ouvert, de compenser le manque matériel par l'imagination. Et c'est, je te jure que c'est un trésor, mais sans fin. Donc, ce que j'ai fait à la sortie de cette période faste, c'est que je me suis affublé du terme d'autodidacte. Et donc, j'ai marié ce côté-là avec mon côté orgueilleux. Et donc, je me suis dit, je vais faire des métiers auxquels je n'aurais jamais pu aspirer juste parce que j'en ai envie. C'était une question d'orgueil. Donc, j'ai créé une société d'import-export. Mais pour pouvoir créer cette société-là, là, c'est le sort qui s'en est mêlé. Et puis, est arrivé le fameux jour où Monsieur Chirac a eu la bonne idée de dissoudre l'Assemblée. Et à ce moment-là, un certain Jospin est arrivé, et grâce à la directive de Jospin, j'ai pu être régularisé sur la foi de tout mon parcours. Quand j'ai dit que je voulais créer ma société, on m'a dit bien sûr, il n'y a pas aucun problème. J'ai créé ma société d'import-export, ce n'était pas une société factice, donc on voulait vraiment, avec mon ami Sébastien, se lancer là-dedans. Mais par contre, je n'ai jamais eu le droit d'être salarié de ma société. C'est-à-dire que j'avais une société pour laquelle il fallait que je paye des charges, mais je ne pouvais pas manger. J'ai emprunté de l'argent, toujours à cette même personne-là. Sébastien est un ange du ciel, hein. C'est un ami, c'est une histoire c'est une amitié complexe, comme toujours. Donc on s'est aimé, on s'est détesté, mais voilà, c'est des étoiles comme ça qui sont là, qui jalonnent ton parcours, et puis... Donc il avait mis 50 000 francs sur lesquels il m'avait, moi, attribué 15 000 francs, et puis le reste pour lui. Ce qui était plus que gentil. Mais c'était vraiment du bricolage. Donc on a très vite abandonné le projet. Sauf que tout l'argent qu'on gagnait partait dans les charges. Mais j'étais obligé de garder cette société parce que c'était mon sésame pour rester ici, quoi, et faire ma vie. Donc ça a été des cartes de séjour d'une année renouvelable à chaque fois, pendant 3 ou 4 ans. Et puis le commerce ne m'intéressait plus du tout. Je voulais être journaliste et j'avais rencontré un certain monsieur Pourquerie, qui est aujourd'hui directeur de la publication de Libération, qui s'occupait à l'époque de Métro, Marseille. Donc j'étais allé un peu penaud le démarcher en lui disant bonjour, j'ai un projet. C'était un projet de reportage, au fait, je voulais prendre des gens qui étaient ici, notamment à Marseille, connus pour commencer, histoire de lancer le projet, et puis après partir sur des gens beaucoup plus atypiques, les interroger sur leur ville d'origine. Et j'avais obtenu l'aval très amical d'Akhenaton, le chanteur d'Ayam, qui vient de Naples, il m'a dit écoute, quand tu veux, si tu arrives à faire ça, moi je t'accompagne à Naples, et puis on fera un tour de la ville. Et donc M. Pourquerie a été très réceptif au projet, il était emballé, il me disait « on ne sait pas quoi faire de la page centrale de métro, donc je te donne la page centrale ». Ce qui était quand même énorme. Et donc dans mon souci de rester toujours en conformité avec la législation en vigueur, je suis parti voir l'inspection du travail, je crois, pour leur dire « voilà, je voudrais changer de statut, aujourd'hui j'ai un statut de commerçant ». Je voudrais être journaliste, j'ai déjà quelques commandes et tout. Mais la démarche s'est quand même rappelée à mon bon souvenir quand j'ai voulu être journaliste, où on m'a dit « Monsieur, on ne peut pas ». Donc on a tout fait pour m'en dissuader. Donc je n'ai jamais écrit à Métro. Je n'ai jamais pu écrire à Métro. Et tout honteux que je suis encore aujourd'hui, je n'ai jamais eu le courage de rappeler ce bon monsieur Pourquerie pour lui dire que je ne pouvais pas travailler. C'était trop compliqué à expliquer, donc... Donc j'en avais marre d'expliquer ma situation. Donc j'ai juste fait le mort et je n'ai pas pu écrire. Je peux te jurer que cette situation-là m'a fait pleurer quelques mois. Mais vraiment. Par contre, j'ai pu être journaliste avec des organes de presse algériens pour lesquels j'ai couvert quelques événements ici, des matchs de foot, rien de passionnant. Mais voilà, il fallait le faire, je l'ai fait, quoi. Ça s'est passé comme ça. Mais alors, encore une fois, mon ami Sébastien a demandé à ses parents, qui sont des gens plutôt aisés, de me loger chez eux. Donc, tiens-toi bien, ils ont démoli leur buanderie pour en faire un petit studio, rien que pour moi. Donc, je me suis retrouvé dans un studio qui faisait 6 mètres carrés, mais c'était Versailles pour moi. C'était vraiment Versailles. Non, mais je te jure, c'était Versailles. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc du jour au lendemain, comme ça, je me suis retrouvé avec un toit sur la tête. Et ces gens-là m'ont permis de... Même m'ont donné un peu de travail chez eux, donc j'ai pu travailler dans leur magasin. Puis à côté de ça, j'ai pu travailler comme traducteur Donc voilà, j'arrivais à avoir mes 2500, 3000 francs par mois à faire ça. Après, en combinant les traductions, en combinant les aides au logement, là, j'ai pu avoir un appartement où je mangeais essentiellement des pâtes et du riz, mais j'avais mon chez-moi, mon vrai chez-moi. Ça, c'était aux alentours de 98-19, à peu près. Après le journalisme, j'avais rencontré un certain monsieur Émile Temim, un monsieur d'une bonté, d'une gentillesse, d'une intelligence rare, enfin, il y a des gens comme ça. Et lui-même étant natif d'Algérie, qui était sociologue et historien, c'était quelqu'un qui était très reconnu ici, avait très gentiment un jour consenti à faire un courrier pour moi, saisissant le maire de Marseille, en attirant son attention sur ma situation, s'il pouvait éventuellement avoir un regard bienveillant sur mon dossier. Mon dossier parlait pour lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de passe-droit, surtout pas, je ne suis pas partisan de ça, et puis lui non plus ne se serait jamais mouillé dans des histoires comme ça. Eh ben, figure-toi que ça a fonctionné, que j'ai pu avoir une carte de séjour de 10 ans, qui est le sésame absolu. C'est-à-dire, open bar, on peut travailler, on peut ne pas travailler, on peut aller aux assédiques, on peut aller au chômage. J'ai pu enfin pouvoir travailler légalement. Figure-toi que le jour où j'ai obtenu mes papiers, j'avais une voisine qui me dit tu as le droit de travailler maintenant, parce que c'était aussi une amie qui connaissait un petit peu ma situation. Je dis ouais, bah écoute, oui. Elle me dit j'ai un copain ils sont en train de monter un projet d'une série pour la télé, ils ont besoin d'un accessoiriste. Je ne savais même pas ce que ça pouvait être, un accessoiriste. Alors je dis ok, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? Elle m'a dit tiens, prends son numéro, appelle-le. Donc c'était un certain Mourad Saïdi, qui est devenu un ami, pour quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect. Je l'ai appelé, je dis bonjour, Vanessa m'a parlé de vous, vous avez besoin d'un accessoiriste apparemment. Il m'a dit ok, vous êtes comment? Je lui ai donné une petite description de certaines de mes capacités. Il m'a dit bon bah voyons-nous, on s'est vu. Je suis arrivé, il m'a donné un scénario, il m'a dit tiens, faut le dépouiller. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc il m'a appris, donc j'ai appris à dépouiller un scénario, c'est-à-dire le lire et puis relever tout ce qui relevait des accessoires. Et je me suis retrouvé embarqué sur un tournage qui a duré à peu près 4 mois. J'ai bien aimé le métier, j'ai bien aimé le côté l'urgence de l'activité sur un plateau, notamment pour un accessoiriste. Un accessoiriste, c'est un gars qui est tout seul sur un plateau. C'est le seul gars qui, sur un plateau, est tout seul. Et donc, tu cavales. Et t'as intérêt à cavaler vite. Et t'as intérêt à avoir de la répartie, et t'as intérêt à avoir de la ressource, et t'as intérêt à savoir retomber sur tes pattes, et t'as intérêt à savoir dire oui à tout. Et quand tu dis non, c'est quand même oui, mais... Enfin, voilà, tu apprends plein de petites subtilités. Donc, ça a été un métier fait pour moi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, depuis ce jour-là, je suis accessoiriste. Et entre-temps, ma pauvre maman est partie rejoindre les étoiles. Elle n'est plus de ce monde. Donc cet imbécile a eu la mauvaise idée de quitter le navire juste au moment où il ne fallait pas. Ce qui reste une cassure, aussi. Je n'ai pas pu lui montrer que j'étais... arrivé à bon port. Elle ne l'a jamais vu. Elle ne l'a jamais vu. J'aurais quand même voulu qu'elle profite un peu de tout ça, parce que ça aurait pas été un luxe. Voilà. Donc tu lui laisses des plumes quand même dans toutes ces histoires-là. Donc c'est génial, parce que c'est riche, et tu apprends plein de choses, des bonnes et des mauvaises, et puis tout te sert, tout devient un outil. Tout devient un outil. À ces moments-là, c'est tout devient un outil. Et aujourd'hui, je vis au Vallon des Offs, depuis 3 ans. Avec ma chérie, sa petite fille, qui est un petit peu la mienne, Anne et Eva. Et on s'est installé ici par choix. C'était mon choix. Il me fallait cette proximité avec la mer, vraiment, il me fallait cette proximité avec la mer. Et c'est ce qui me relie à ce que j'ai laissé là-bas, c'est ce qui me relie à ce que je suis. Quand je suis face à la mer, je regarde le bleu de cette mer. C'est la matière qui m'intéresse. Et quand je touche l'eau, c'est exactement la même eau. Et c'est important. Et c'est très important. Et des fois, quand je m'y plonge pleinement, moi qui suis plongeur depuis tout petit, je peux te jurer, il y a des fois, il te faut une sacrée bonne raison pour remonter. Je te jure que c'est vrai. Il te faut une sacrée bonne raison pour remonter. Tu n'entends rien du tout, à peine un peu le bruit du sable. Et pour ça, il te faut...
Ouais.
Donc, ouais. Donc, il te faut, ouais. Des fois, il te faut. Ça m'est arrivé une fois. C'était à Cassis. Je voulais me mettre à l'eau pour aller plonger, pour aller pêcher. Et puis, j'avais lancé mon fusil avant de me mettre à l'eau, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait à peu près 20 mètres de profondeur. Et quand je me suis mis à l'eau, j'ai mis mon masque et j'ai regardé. Et puis là, je voyais que dalle. C'est-à-dire que c'était plus qu'au profond, quoi. Et donc, il fallait bien récupérer ce fusil. J'ai pris mon souffle, je suis descendu. La première tentative n'a pas servi à grand-chose. Je suis remonté, je me suis préparé un peu mieux que ça, et puis je suis redescendu. Et là, en arrivant comme ça vers le fond, j'ai vu une espèce de masse. Je croyais que c'était un rocher. Et en m'approchant, je voyais que c'était une carcasse de voiture. Et j'ai trouvé mon fusil, puis j'ai levé la tête en haut, et c'était juste magnifique. Ces milliers de tonnes d'eau. Et je me suis allongé sur le sable. Et je peux te jurer que j'avais envie de tout sauf de remonter, quoi. J'étais bien. J'étais bien, je me retrouvais ce calme auquel j'aspire. En fait, on aspire souvent au calme quand on passe par ce genre de choses. J'ai pas vécu une grosse misère non plus, faut pas déconner. Hein. J'ai une vie riche de plein de choses, donc voilà, ça construit un homme, voilà. Il y a des gens qui ont laissé des membres de leur famille ou des membres de leur corps, donc ça va, je m'en sors plutôt bien, tout va bien, c'était pas la misère non plus, quoi. Mais à ce moment-là, oui, ce calme-là, je l'ai trouvé, j'avais du mal à m'en délester. Mais je suis quand même remonté. J'ai saigné du nez pendant une demi-heure. Ça m'a bien valu ça, mais voilà, ça s'était plutôt bien passé.
Levons-nous dès à présent et appuyons-nous sur le dernier garde-corps face à la mer. En face de nous, le restaurant L'Épuisette domine la digue. Sur sa droite, une enfilade de petits cabanons borde la rive. L'avant-dernière demeure sur la gauche est la maison de Jacqueline Barbizet, veuve de son mari, Pierre, depuis 1990. Pierre Barbizet, né en 1922, fut un pianiste-interprète célèbre de son vivant. Il fut aussi directeur du Conservatoire de Marseille pendant de nombreuses années. C'est ici que Jacqueline, qui se fait appeler Caline, prend son bain de mer l'été, malgré son grand âge, selon les dires d'Antoine. Le morceau que nous écoutons fut composé par Maurice Ravel et se nomme « Oiseau triste ». Et c'est Pierre Barbizet qui, en personne, joue le piano sur cet enregistrement. Remettons-nous en route. Nous dépassons maintenant l'arche du pont et marchons au bord de l'eau, en direction du bâtiment au fond dont les murs sont de couleur fuchsia. Ce que les habitants appellent ici la piscine. Bernard m'a raconté que c'est là qu'il a appris à nager. C'est donc ici, selon lui, que tous les enfants du Vallon des Auffes prennent leur premier bain de mer. On imagine aisément des familles prendre du bon temps ici depuis des décennies. Ce lieu est comme protégé des tristesses du monde. Il se veut modeste et accueillant. Même la mer, lorsqu'elle se déchaîne, ne perturbe pas cet endroit. Le bâtiment, au mur fuchsia que nous approchons, est un club de plongée sous-marine. Sur sa gauche se trouve un escalier vers un passage étroit menant à la plagette. En engageons-nous dans cette voie. Montons donc dès à présent les 10 marches de l'escalier au mur fuchsia et traversons les 3 passages qui mènent à la plagette. Ça y est, nous y sommes, à la plagette. Descendons le terre-plein jusqu'en bas, puis les 2 marches qui suivent, et adossons-nous au mur en pierre sur notre gauche, qui se trouve face à la mer. Notre visite touche bientôt à sa fin. Bernard, Antoine, Boris, Amine, et bien d'autres ici ne prétendent pas détenir une vérité quelconque, mais ont pleinement conscience de la leur, en toute humilité. Ils sont vivants, et conscients de la trace qu'ils laissent. Ce qui les relie, c'est le rapport à la mer, et ce lien les connecte au monde et à l'univers. Nous disions au début de notre promenade que les habitants de ce quartier sont les hôtes d'un secret, et ce, dans la plus grande des discrétions. Ce secret est de la plus haute importance. Il ne se dévoile qu'aux personnes disponibles et bienveillantes. C'est pour cela qu'il n'y a nul gardien pour le protéger. Alors maintenant, allons à la rencontre de Raïla. Raïla est conteuse. Elle vit au Vallon des Aufs avec Damien, son compagnon, et Jade, leur petite fille. Raïla vient du Niger, une terre sèche, aride et lointaine.
Au tout début, il n'y avait rien. Enfin, quand je dis rien, si, il y avait quelque chose. Une immense étendue de boue. Un jour, ou bien est-ce une nuit, ça, personne ne le savait encore, apparut la mort. Elle s'allongea dans l'étendue de boue, rêvant de dériver au loin, quand soudain se réveilla le grand souffle, jusqu'alors endormi au fond de la boue. Le grand souffle s'engouffra dans le ventre de la mort et la rendit enceinte. Son ventre s'arrondit, grossit, puis la grossesse vint à son terme. Survinrent alors les violentes douleurs de l'accouchement. Mais pas d'enfant en vue. Seulement, à chaque fois qu'elle hurlait de douleur, sortait de sa bouche un grand souffle qui réduisait la grosseur de son ventre. On raconte que le premier souffle sépara l'eau de la boue. Ainsi naquit le premier enfant de la mort, la mère. On raconte que le deuxième souffle sécha les mottes de terre collante qui restaient et en fit une boule géante. Ainsi naquit le deuxième enfant de la mort, la terre. Extasiée par tant de pouvoir, elle souffla une fois de plus, mais doucement, délicieusement cette fois-ci, et fit apparaître le vent. Elle le munit d'ailes innombrables. Le vent prit alors le pouvoir sur la mer. L'eau se gonfla en vagues, rejaillit en écume, envoya au-dessus d'elle des vapeurs qui restèrent à planer au-dessus de l'eau. Le vent fit naître le ciel. Fière de son œuvre, la mort se rallongea dans la mer et dériva sur le dos, les genoux levés, nageant dans le bonheur. Les gazouillis qui sortirent de sa bouche firent apparaître un oiseau qui vint se loger au creux de ses genoux. Il pondit un œuf dans la mer. Cela réveilla une fois de plus le grand souffle qui cracha l'œuf hors de l'eau et l'explosa dans les airs. Le jaune de l'œuf se transforma en soleil et le blanc, la lune. Les débris de la coquille s'éparpillèrent en myriades d'étoiles dans le ciel. Mais le soleil et la lune eurent du mal à cohabiter ensemble. Le soleil s'auto-proclama roi du ciel et s'accapara tout l'espace. La lune ne l'entendit pas de cette oreille. Et bien évidemment, ce qui devrait arriver arriva. S'ensuivit alors une guerre céleste. Leurs chocs déchirèrent le ciel et firent apparaître les éclairs, ce qui alerta la mort qui les départagea. À partir de là, le soleil fit sa promenade le jour et la lune la nuit. Ainsi naquirent le jour et la nuit. Chers auditeurs, si vous ne l'êtes pas à cet instant précis, je vous demande maintenant de vous adosser au mur de pierre et de vous mettre face à la mer. Sur votre droite se trouve un petit escalier. En face de vous, la mer. Puis, veuillez longer ce mur à quelques mètres sur votre gauche, jusqu'au bout, en direction du rocher. Sur ce rocher se trouve un trou à hauteur de votre main. Vous le voyez? Rapprochez-vous. N'ayez pas peur et mettez votre main devant ce trou. Derrière ce trou existe une cavité vieille comme le monde. Elle concentre tout ce que les hommes ont rendu à la mer en guise de tribut. Le grand souffle décida de rester sur terre et il se retira ici, derrière ce trou. D'ailleurs, en ce moment, il dort. C'est sa respiration que vous entendez et que vous sentez sur votre main. Depuis que le jour et la nuit existent, il somnole en gardant un œil sur le monde. C'est ici qu'il a trouvé refuge, car les habitants du Vallon des Offes ont su l'accueillir, prendre soin de lui et surtout, garder son secret. Je vous invite à votre tour à garder ce secret précieusement. N'en parlez surtout à personne.
C'était Le Grand Souffle, une tentative d'interprétation poétique d'une réalité documentaire. En collaboration avec l'auteur Raïla Hassan pour l'écriture du conte final, mais aussi avec Bernard Grondona et sa femme, Antoine et ses amis, Boris et Amine pour leur récit de vie. Musique, Charlie Adan, Maurice Ravel. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Virgile Abella. Mastering, Tony Regnault. Sincère remerciement à la mer, au ciel et à la terre, à Raymond Bonny, mais aussi à Anne Chauvet et Eva, à Bastien Bonny, Damien et Jade, à Caroline Larieux et Delphine Trimaille, et enfin à Johanna Selvides.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Service numérique innovant du ministère de la Culture et de la Communication.